les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Gide, Valéry, Apollinaire, Fargue, Aragon, Breton, Pound, Larbeau, Reverdy, Claudel, Walter Benjamin, Fitzgerald, Gertrude Stein, René Char et tellement d'autres. James Joyce, bien entendu, dont elle contribua aux côtés de son amie Sylvia Beach à l'édition originale d'Ulysse et plus encore à la publication de sa première traduction française. De 1915 jusqu'au début des années 50, au numéro 7 de la rue de l'Odéon, dans sa librairie et bibliothèque de près, sont passés, se sont attardés et sentis chez eux, auprès d'Adrienne Monnier, bon nombre des écrivains et poètes qui firent la première moitié du XXe siècle. Adrienne Monnier appartient à l'histoire de la littérature et même, on peut le dire, à sa légende. Qu'a-t-il fallu pour qu'une minuscule librairie de la rive gauche, la Maison des Amis des Livres, ouverte au début de la Première Guerre mondiale par une jeune fille de 23 ans de condition modeste, soit devenue l'un des centres névralgiques de la vie littéraire parisienne et même, on peut le dire aussi, internationale. Avant tout, sans doute, l'amour qu'Adrienne Monnier portait aux livres et à leurs auteurs. Son talent et sa volonté passionnée de faire découvrir aux lecteurs le meilleur de la littérature de son temps, comme le rappelait le Profil perdu en deux parties que lui consacrait Christine Goémé en 1988. Un portrait pour dire toute l'importance d'Adrienne Monnier dans la vie artistique et intellectuelle de l'entre-deux-guerres. Un portrait dans lequel on pouvait l'entendre raconter son histoire, dont nous écoutons ici la première partie, diffusée la première fois le 1er décembre 1988 sur France Culture.
Cette rue de l'Odéon, septembre 1988.
Je veux dire que c'est beau comme tout ici, avec ces dessins. C'était donc la table de... Là, vous voyez, il y a deux pièces dans le fond. La bibliothèque de près était là, au fond à droite. Et ici, c'était un magasin des livres... C'était la réserve, en somme, des livres neufs. Il me semble qu'il y avait quelque chose dans la cour aussi, je ne me rappelle pas. La table où était Adrienne était là, en plein milieu de la pièce, elle était tournée vers la rue, Adrienne. Et elle avait sa balance à main droite pour peser les envois de livres en province.
Profil perdu.
Il y avait des rayons de tous les côtés, mais c'était des rayons à une profondeur, donc ça ne prenait pas tellement de place, il me semble. Je sais pas, je trouve pas ça petit. Si c'est bas de plafond, mais c'est pas petit.
Non, c'est vrai. Et la vitrine, alors, était comme ça, c'est...
Oui, exactement. Exactement comme ça, sauf qu'il n'y avait pas cette boiserie. Il n'y avait pas cette boiserie, mais elle était placée au même endroit. Et il y a un climat dans ce magasin qui est assez attachant, quoi. Ça, on n'en a pas fait n'importe quoi.
Adrienne Monnier.
On est au même endroit, mais... Puis ce qu'on voit à travers les vitres est tout changé aussi. Je ne me rappelle pas ce qu'il y avait, mais c'était rien de ça. Les Brigandego existaient déjà. Et Sylvia Beach habitait là, au 12. Et je crois que là, où il y a les fruits du Congo, si je ne me trompe pas, il y a eu un moment après la guerre, Camille Bloch.
Voici ce qu'écrivait Adrienne Monnier en août 1918. Il est nécessaire que les jeunes gens puissent lire ce qui leur est contemporain et acquérir les livres qui resteront leurs grands amis à travers la vie. C'est pour partager la passion qu'elle portait aux grands textes du XXe siècle qu'elle ouvrit sa librairie, la Maison des Amis des Livres. Elle fit de son combat pour la littérature un enjeu existentiel et le lieu d'un conflit. comme Bergson oppose les morales ouvertes aux morales closes, elle aspire à une littérature ouverte, inquiète de son essence et de sa responsabilité. Elle aima les livres avec transport et crut à la puissance infinie des plus beaux. On touche ici à ce qui transforme l'amateur d'art en gardien de la civilisation. Adrienne Monnier avait le culte du livre dont notre siècle se méfie. Elle y voit le point de résistance de l'esprit contre la barbarie. Écrivain elle-même, on la connaît par ses mémoires, ses articles, sa correspondance et les admirables portraits écrits qu'elle faisait de ses amis, si célèbres depuis. Ainsi a-t-elle tenu pour nous la chronique irremplaçable de la modernité.
Je n'avais jamais fait de commerce avant, je n'avais aucune expérience commerciale. J'avais passé 3 ans aux Annales, secrétaire de Madame Brisson, que j'aimais beaucoup, qui était une femme étonnante d'intelligence, d'énergie, d'initiative.
Adrienne Monnier, 1947.
Mais je dois avouer que le milieu des Annales ne me fascinait pas du tout. Je me sentais excessivement rive gauche. Et ce n'est pas pour des gens comme Richepin ou Frédéric Masson que j'aurais voulu travailler. Je rêvais vraiment de la rive gauche et d'auteurs jeunes, avancés. Il faut dire que j'étais très jeune aussi, j'avais 23 ans à peine. Et mes parents ont eu l'occasion de me donner, ils étaient pauvres, mon père était postier ambulant, il n'avait jamais eu d'argent. Et mon père, étant postier, a été dans une catastrophe de chemin de fer assez terrible, où il a failli mourir. À la suite de ça, on lui a donné une indemnité de 10 000 francs, ce qui était une grosse somme à l'époque. Et il n'a pas hésité à me laisser disposer de cette somme pour faire cette librairie dont j'ai rêvé pendant 1 an à peu près avant de la faire. Alors voilà, j'ai fait ça parce que j'adorais les livres. Quand j'étais gosse, je n'avais qu'une idée, c'était d'être écrivain. Mais je comprenais bien qu'on ne peut pas vivre de sa plume. Que c'était même pas la peine d'y songer, je n'aurais pas aimé faire du journalisme non plus. Alors, le plus naturel était de se diriger vers les livres, ne pouvant pas en faire, vers ceux que les autres avaient écrits. Et voilà pourquoi j'ai fait ma maison. J'ai fait par amour des livres, et puis parce que j'avais un appétit de culture extraordinaire. J'aurais voulu lire tout ce qu'on a écrit au monde. Et je me disais bien, mon Dieu, si je suis libraire, je pourrais acheter tous les livres possibles et imaginables, et puis je les lirai, puis les gens les liront après moi.
Quand elle ouvre son petit magasin de la rue de l'Odéon en automne 1915,
François Chapon,
elle va s'intéresser à des auteurs qui ne sont pas du tout connus du grand public. On ne va pas trouver dans sa vitrine les romans de Paul Bourget ou d'Henri Bordeaux. Elle va être même l'une des seules, avec le libraire Camille Bloch à l'époque, à collectionner, à offrir à ses acheteurs des ouvrages de poésie. La poésie n'avait pour ainsi dire pas de droit d'entrée chez les grands libraires du boulevard, par exemple. Donc vous voyez, toute l'action d'Adrienne Monnier en tant que libraire a été fondée sur la qualité des œuvres et sur leur durée. J'insiste là-dessus, car elle a réuni les œuvres de gens qui, à l'époque, n'avaient pas du tout d'audience. Je pense que même André Gide, si vous voulez, à ce moment-là, n'avait pas encore le renom qu'il allait avoir. Paul Claudel n'était pas reçu par l'ensemble du public, si ce n'est par une très mince frange d'amateurs, d'initiés. Paul Valéry, n'en parlons pas, il était presque inconnu. Et c'est Adrienne Monnier qui va avoir l'idée de réunir dans un volume les fameux poèmes de jeunesse qu'on ne pouvait pas trouver, qui étaient insaisissables, de Paul Valéry. C'est l'album de vers anciens. Et vous savez que dans ses premières années de sa librairie, elle a accueilli là ces poètes qu'on appelle les poètes de l'esprit nouveau, Apollinaire par exemple, ou Reverdy, sur lequel elle a écrit des lignes très émouvantes. Et c'est chez elle que se retrouveront de très jeunes poètes qui s'appellent André Breton ou Aragon. Donc, se constitue la rue de l'Odéon, une sorte de cellule littéraire d'un caractère tout à fait exceptionnel qui va se développer, comme on va le voir.
Et en même temps, un foyer de résistance au mercantilisme de l'édition, en fait.
Voilà. Vous avez mis le doigt, l'accent, sur un phénomène dont nous souffrons cruellement à l'heure actuelle.
Tout à fait, oui.
Car nous sommes revenus à la période contre laquelle avait lutté, par exemple, un homme comme Alfred Valette au Mercure de France et toutes les petites chapelles du symbolisme, c'est-à-dire le règne d'une édition qui n'est mue que par des soucis économiques. Si on avait pilonné Lautramont ou Rimbaud au moment de leur deux mois après leur publication, ben je peux vous dire que la totalité, même Baudelaire, la totalité de leur œuvre aurait complètement disparu. N'est-ce pas? Et c'est contre cet état de choses, cet état de fait qu'Adrienne Monnier a réagi. Et elle le faisait, elle aussi, sur un plan économique, car il ne faut jamais perdre de vue qu'avant tout, elle était libraire.
Mes premiers clients sont devenus très vite mes amis. Puis alors, on a parlé de moi. On a dit, tiens, mais rue de l'Odéon, il y a une jeune fille qui est très curieuse, qui est très enthousiaste. On voyait bien que je n'étais pas une commerçante née, naturellement, mais je devais être une petite personne assez drôle, en effet. Alors, j'ai connu Fargue très tôt. J'ai fait ma maison en 15, en novembre 15, c'est-à-dire la deuxième année de l'autre guerre. Et dès le début de l'année 1916, j'ai connu dans le même mois de janvier, je crois bien, Léon-Paul Fargue et Jules Romain. J'ai connu Breton tout de suite en 16, au printemps, et il était charmant à ce moment-là, il était en uniforme bleu horizon, et sa grande admiration à lui, c'était Apollinaire. Alors nous discutions un petit peu, parce que j'aimais beaucoup Apollinaire, je trouvais un poète vraiment exquis. Mais je n'avais pas une admiration aussi forte que celle de Breton. Et puis alors Breton, par ailleurs, ne partageait pas mon admiration pour Romain. Il trouvait que l'unanimisme s'était très dépassé. Et d'ailleurs, il en pouvait juger en futur chef de groupe, en futur fondateur du surréalisme, n'est-ce pas? Puis Aragon est venu vers la même époque. Aragon était un tout jeune garçon qui faisait son PCN et qui était excessivement gentil, sentimental. Je me souviens d'une fois... Il nous racontait que, au PC, enfin, à ses cours, là, à l'amphithéâtre, ses camarades disaient de telles obscénités, chantaient des chansons si abominables, qu'il en était prêt de pleurer, enfin, il était atterré par tant de grossièreté. Quand il était en vacances, il écrivait des lettres très gentilles, une en particulier, où il se flattait de pouvoir rencontrer à la rentrée un monsieur qui allait lui faire connaître Anatole France. Et puis également André Gide. Et alors il ajoutait, vous voyez si à la rentrée j'aurai des relations URF. Mais ça c'est très amusant. Et Apollinaire j'ai connu au bout d'un moment. Apollinaire est venu dans le courant de l'année 16. Un jour je le vois passer devant la vitrine avec Léoto que je connaissais bien, que je voyais très souvent en allant au Mercure de France, faire mes réassortiments. Et je reconnais tout de suite Apollinaire, je ne l'avais jamais vu. D'ailleurs, quelqu'un, je crois, était dans la librairie qui dit « Voilà Apollinaire ». Alors, il était en uniforme, puis il avait cette espèce de petit bandage autour du front, n'est-ce pas, avec cette tête en forme de poire, un tout petit peu perrubu, si on veut. Et puis, je le regarde de tous mes yeux, et puis il passe. Alors, quelques minutes après, il revient, je le vois ouvrir la porte brusquement, et il me dit, c'est tout de même malheureux que dans cette sacrée maison, il n'y a pas un livre de combattant en vitrine. Alors, je lui dis, mais le fait est qu'en effet, c'était assez surprenant. J'admirais beaucoup Alcool, j'avais l'habitude de le mettre continuellement en vitrine. Il avait été vendu la veille, sans doute, je n'avais pas eu le temps de le réassortir. Ce que je lui ai expliqué aussitôt, avec beaucoup de bonne grâce et force confusément, et ça s'est très bien arrangé.
Mon loup, la nuit descend, tu es à moi, je t'aime. Les cyprès ont noirci, le ciel a fait de même. Les trompettes chantaient ta beauté, mon bonheur de t'aimer pour toujours, ton cœur près de mon cœur. Je suis revenu doucement à la caserne. Les écuries sentaient bon la luzerne. Les croupes des chevaux évoquaient ta force et ta grâce d'alezane dorée. Ô ma belle jument de race! La tourmagne tournait sur sa colline laurée et dansait lentement. Lentement saubombrait tandis que les amants descendaient de la colline. La tour dansait lentement comme une sarrasine. Le vent souffle pourtant, il ne fait pas du tout froid. Je te verrai dans 2 jours, et je suis heureux comme un roi. Et j'aime de t'y aimer. C'est une hymne, la romaine, où les soldats français remplacent l'armée prétorienne. Beaucoup de vieux soldats qu'on a pu habiller. Ils vont comme des bœufs, tanguent comme des mariniers. Je pense à tes cheveux qui sont mon or et ma gloire. Ils sont toute ma lumière dans la nuit noire. Et tes yeux sont les fenêtres d'où je veux regarder la vie et ses bonheurs. La mort qui vient aider les soldats là, les femmes tristes et les enfants malades. Des soldats mangent près d'ici de l'ail dans la salade. L'un a une chemise quadrillée de bleu comme une carte. Je t'adore, mon loup, et sans te voir, je te regarde. Ça sent l'ail et le vin et aussi l'iodoforme. Je t'adore, mon loup. Embrasse-moi avant que je ne dorme. Le ciel est plein d'étoiles qui sont les soldats. Morts, ils bivouaquent là-haut comme ils bivouaquaient là-bas.
La civilisation occidentale est au bord de la destruction par la folie de tous ces grands États qui s'entretuent et qui n'ont qu'un souci, c'est cette ardeur guerrière. Eh bien, juste à ce moment-là, cette petite femme va ouvrir cette librairie qui va être un refus, justement, de ce massacre de civilisation. Et vous savez que c'est presque au même moment que Jacques Doucet, conseillé par de grands écrivains lui aussi, va créer sa bibliothèque littéraire. Vous avez donc là deux phénomènes de civilisation qui viennent en quelque sorte apporter une dénégation à l'état social de l'Occident à ce moment-là.
On peut évoquer justement à ce sujet une des premières phrases qu'elle écrit, qui ouvre son livre, qui s'appelle donc Rue de l'Odéon. Elle dit « Je pense souvent à la parole d'Héraclite, tout arrive à l'existence par la discorde et la nécessité. Parole qui m'apparaît comme un masque de tragédie à la bouche carrée, bouche toujours ouverte pour le cri, la plainte ou le reproche. » Enfin, c'est tout à fait...
Oui,
ça correspond tout à fait à ce que...
Voilà, il y a une espèce d'insurrection de l'intelligence contre un état de fait. Insurrection qui a été très profitable par la suite, alors, à l'évolution de nos lettres. Car la base de l'action d'Adrienne Monnier, il ne faut pas le perdre de vue non plus, c'est un don de discernement. Adrienne Monnier a su admirablement choisir les écrivains qu'elle a défendus. Je ne dis pas qu'elle n'ait pas commis d'erreur, tout le monde en commet. Et c'est presque, je dirais, l'envers positif d'un caractère qui a des partis pris, des choix. Elle a eu, par exemple, éclairé d'ailleurs par ses premières œuvres, une passion pour Jules Romain que la fin de cet écrivain ne justifie pas tout à fait, et encore moins d'ailleurs le témoignage qu'il a porté sur elle dans le recueil de souvenirs qu'avait édité la revue du Mercure de France. Il est certain qu'elle avait des partis pris tranchés, des exclusives, qu'on pouvait parler presque d'un clan de la rue de l'Odéon, mais ça, je dirais, c'est l'envers inévitable d'un choix délibéré. On ne peut pas le lui reprocher. Elle n'avait pas, je crois, d'intervention abusive auprès de sa clientèle. Mais elle suggérait, par une réflexion, par un étonnement, par un conseil, n'est-ce pas ? Et peu à peu, de la sorte, se produisait une insinuation très féconde dans l'esprit de ses clients.
Michel Fardoulis-Lagrange.
Je l'ai rencontré au lendemain de la libération. J'avais assez, il y a un mot de Pollan me disant qu'il fallait aller chercher à la librairie d'Antoine Monnier des vêtements qui ont été expédiés, n'est-ce pas, d'Amérique pour les intellectuels français, les écrivains français. Et effectivement, je me suis rendu donc à sa librairie, rue de l'Odéon. Et alors là, elle procédait à la distribution des vêtements. Et là, j'ai rencontré également René Char et il me semble bien également Cournot. Il était tout jeune en ce moment-là. Et il avait publié un livre, sur, je ne sais pas si c'est la Martinique, je ne me souviens plus exactement le titre de son livre, qui est un livre qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs à l'époque. Et il me semble qu'il était très lié avec Adrien Monnier, enfin, qu'il fréquentait assidûment la librairie d'Adrien Monnier. Et il y avait tout l'état-major de Pollan qui était là, également, tous les jeunes écrivains qui avaient fait partie de sa collection de métamorphoses. Vous savez, les éditions que j'ai Gallimard, n'est-ce pas ? Et Desolliers était là, Lambrix était là, n'est-ce pas ? Voilà.
Alors cette petite librairie devait être complètement envahie à la fois de livres.
Cette librairie était complètement envahie, effectivement. Et puis alors j'ai continué à fréquenter naturellement par la suite la librairie et Adrien Monnier qui me paraissait une femme austère, je dirais, enfin d'une exerçant beaucoup d'autorité et ayant l'allure d'une prêtresse, n'est-ce pas ? Elle était bien en noir tout le temps. Et puis alors, dans le fond de la librairie, il y avait une petite porte, n'est-ce pas ? Et elle apparaissait de là, elle faisait son apparition de là, n'est-ce pas ? Et elle venait lentement se placer sur la droite de la librairie. Et là, n'est-ce pas, elle commençait naturellement à parler. Souvent, elle nous parlait de Valérie Larbeau, n'est-ce pas, qui avait fait sa connaissance, de Paul Valéry, qui venait la voir. Mais moi, je n'ai jamais rencontré Paul Valéry là-bas. De Joyce, et elle pratiquait le livre. Mm. Elle était extrêmement, n'est-ce pas, appliquée, sérieuse. Elle avait d'ailleurs une mémoire de tonnerre, n'est-ce pas, ce qui concerne les clients qu'il a fréquentés, n'est-ce pas. Et au bout d'un certain temps, si les livres n'étaient pas vendus, naturellement, elle a radié, n'est-ce pas, automatiquement de la liste les noms de celui qui avait emprunté les livres, s'il avait quelques jours de retard. Et...
Qui empruntait les livres alors ? Des gens
Empruntait les livres.
Des étudiants par exemple ?
Des étudiants, oui, des étudiants et des écrivains également. Des écrivains.
Ça tournait bien donc ce prêt, ça fonctionnait ?
Oui, ça fonctionnait très bien. Très, très bien. J'étais frappé d'ailleurs par son comportement, je dirais, par son discours, n'est-ce pas ? Où il n'y avait pas de superflu. C'était pas un discours, c'était pas une rhétorique, je dirais. C'était un discours extrêmement pondéré, dans un sens, et très précis. Elle m'influençait, c'est-à-dire elle me passionnait énormément, parce que j'étais à cette époque, j'étais très jeune, naturellement, et je débutais dans les lettres. Et Adrien Monnier me paraissait comme une créature, n'est-ce pas, extrêmement.
Elle vous faisait peur un peu ou pas ?
Oui, j'avais un tout petit peu peur. J'étais très intimidé, oui, très intimidé. Et souvent, j'ai rencontré Charles, d'ailleurs, là-bas. Il fréquentait également la librairie énormément. Il était là tous les après-midi. Et à l'époque, Charles ne connaissait pas encore la gloire qu'il a atteint après, n'est-ce pas ? Et il était beaucoup plus accessible et... Parce que, à vrai dire, Charles était très, très orgueilleux, c'était un être très orgueilleux, très imbu de lui-même, enfin, je veux dire. Et quand il allait à la librairie d'Adrien Monnier, il devenait extrêmement humble. Il était au niveau de tous, n'est-ce pas? Ce qui prouve, n'est-ce pas, qu'Adrien Monnier exerçait réellement une influence sur les gens qu'il a fréquentés. Elle avait un jugement très tranchant, n'est-ce pas? Il n'était pas possible de discuter avec elle, en fait, concernant les valeurs littéraires. Son jugement était extrêmement tranchant. Ah oui, j'ai oublié également Fabre, Léon-Paul Fabre était son chouchou, enfin. Il estimait énormément Léon-Paul Fabre. Dans un sens, elle avait assumé, comment dirais-je, ou bien continué la tradition des salons littéraires qui ont disparu à l'heure actuelle, n'est-ce pas, que ça n'existe plus. Sa librairie était une survivance, n'est-ce pas, du salon littéraire qui avait fleuri, n'est-ce pas, pendant l'époque, à partir des 1900 jusqu'à 1925-1930, depuis la décadence, depuis qu'il a commencé la décadence des salons littéraires, je dirais, où ça ne correspondait plus à la diffraction du corps littéraire, n'est-ce pas, à la dispersion du corps littéraire, n'est-ce pas. Et ça avait son charme. Il avait un charme déçué, n'est-ce pas. Salivari avait un charme déçué, comme c'est simplement. Par certains côtés, une certaine. Certains parfums de l'Anatole France, vous voyez, de l'ambiance de l'Anatole France, décrite, n'est-ce pas, dans l'histoire de M. Bergeret. Cette survivance, je dirais, du colloque littéraire.
Une certaine odeur de livre.
C'est ça, une certaine odeur de livre. Voilà, c'est exactement ça.
Octobre 1926, journal. Paris de nouveau, tumulte. Je me sens devenir insociable, plus aucun désir de causer. Et d'une façon plus absolue, pas de désir. Conversation avec Adrien Monnier, qui n'aime pas les faux monnayeurs. En général, il se passe pour ce dernier livre ce qui s'est déjà passé tant de fois avec les précédents. Le plus récent n'est aimé que par ceux qui n'avaient pas encore aimé les autres. Et tous les lecteurs que les précédents livres m'avaient acquis déclarent aimer beaucoup moins celui-là. J'y suis fait, et c'est bien qu'il suffit d'attendre. Adrien Monnier me parle assez longuement et éloquemment de la froideur et méchanceté foncière que ce livre laisse paraître, et qui doit être le fond de ma nature. Je ne sais que dire, que penser. Quelques critiques que l'on m'adresse, j'acquiesce toujours. Mais je sais qu'à Stendhal également, on a reproché l'insensibilité. La froideur.
Gide également a joué un très très grand rôle à la maison. La bibliothèque de prêt que j'avais fondée et qui fonctionnait déjà assez bien ne possédait pas les nourritures terrestres, ce qui me semblait une lacune terrible. Alors je lui avais écrit pour lui demander s'il voulait bien donner un exemplaire à ma bibliothèque, que ce n'était pas pour moi mais pour les jeunes qui venaient à la maison, et il m'avait répondu qu'il était fort surpris d'apprendre que c'était épuisé, qu'il n'en revenait pas. Maintenant, dans cette même année 17, et dans l'année 18 aussi, juste avant la fin de la guerre, c'était toujours la guerre, j'ai connu Lucien Fabre qui est venu, et à qui justement nous avons lu ensemble La Jeune Pâque, et j'ai eu le plaisir plus tard de le présenter à Valérie, le jour où j'avais fait la séance Claudel. Et puis alors Soupeau et Luard sont venus, et Luard, je crois, amené par Aragon et par Breton. Il n'était pas question en ce moment-là encore du surréalisme, mais enfin Dada commençait à les agiter beaucoup. Puis j'ai dû voir Paulin aussi en 17, au moment où il a publié son Guerrier appliqué. Et je me souviens, je crois que c'est en 17 aussi que j'ai reçu les premiers numéros de Dada. J'étais indignée, je trouvais ça monstrueux et la fin de tout. Et j'avais décidé que je ne les mettrais pas en vente. Je les avais cachés dans un tiroir. Alors un jour, Paulin est venu, il m'a dit, dites donc, vous n'auriez pas reçu des fois les premiers numéros de Dada? Alors je lui ai dit si, mais j'ai décidé de ne les montrer à personne. Et quand ces cochons-là m'enverront la facture, je leur renvoie leurs numéros. Alors elle dit, oh mais c'est que j'aimerais bien les voir. Alors je lui ai dit, écoutez, parce que c'est vous, je vais vous les prêter, mais vous ne les couperez pas, hein, vous me les rendrez, puis on leur renverra ça tel que... Je ne me doutais pas à ce moment-là de ce qu'allait devenir Dada. Et... Enfin, non, je ne pouvais me douter de rien, bien sûr.
Michel Descodins.
Si le 2 août 1914 a été une rupture totale dans la vie littéraire et artistique, dès 1915, les choses reprennent, on voit des revues reparaître, on voit même des groupes, et particulièrement poétiques, s'organiser sur ce thème de l'avant-garde. Et les jeunes revues comme SIC, qui est dirigée par Pierre-Albert Birot, ou Nord-Sud, qui est fondée en 1917 par Pierre Revel, d'autres encore, ces jeunes revues trouvent un dépositaire idéal chez Adrienne Meunier. Et je pense qu'il n'est pas inutile de voir, par exemple, dans un numéro de Nord-Sud, cette indication « dépositaire, librairie, Meunier », c'est la première, 7 rue de l'Odéon, et il y en a ensuite 3 ou 4 qui sont citées, qui d'ailleurs sont toutes sur la rive gauche. Et c'est quelque chose qui se poursuit. Lorsque, au lendemain de la guerre, est fondée cette fameuse revue littérature, qui, vous le savez, dans ses premiers numéros, prétend donner un panorama de la jeune littérature française et qui, très rapidement, va devenir la revue des jeunes dadaïstes, puis des surréalistes, eh bien, on s'aperçoit que, là aussi, le nom d'Adrienne Meunier est noté dès le début, dès le premier numéro, à l'envers de la couverture. Nous lisons « Rédaction et administration 9 Place du Panthéon ».
Place du Panthéon, oui.
Mais pour la vente...
C'est l'adresse personnelle de Breton.
Voilà, c'est l'adresse de Breton, l'hôtel des grands hommes. Et pour la vente, s'adresser à la maison des amis des livres, 7 rue de l'Odéon toujours. Et on voit un placard publicitaire dès le deuxième numéro qui annonce que pour toute commande, pour les ventes à l'étranger, s'adresser toujours à Adrienne Meunier. Et vous voyez donc qu'elle est à ce moment-là, en quelque sorte, au cœur de tout ce qui, dans le domaine des revues, se fait de neuf. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est qu'au bout d'un certain nombre de numéros dans littérature, son nom va disparaître.
Ah oui.
Hein, son nom disparaît au moment où littérature est administrée par les éditions du Sans Pareil, c'est-à-dire des éditions qui sont animées par les futurs surréalistes. Et au moment où la revue littérature change un peu de cap, ça c'est le numéro 8 en octobre 1919.
Est-ce que ça correspond avec la brouille Meunier-Breton? Non, c'est
eh bien,
un peu plus,
non,
elle est
la
plus
brouille,
tardive
cette brouille.
Cette brouille
viendra un petit peu plus tard,
oui.
Mais je crois que cela
déjà
est quand même
distance,
assez significatif.
Hein.
Il y a une distance qui s'établit, peut-être parce que ce jeune groupe veut prendre son autonomie, mais je crois aussi, dans une grande mesure, en raison de ce que Adrienne Meunier ressent profondément à l'égard de la littérature et des arts. Mmh. Je crois que beaucoup plus que, employant des mots très schématiques, qu'une avant-garde, elle est la représentante d'une modernité. Hein, je fais une assez grande différence entre ceux qui veulent, dans une certaine mesure, une rupture inaugurale, je reprends un terme surréaliste, ou ceux qui veulent simplement vivre dans leur temps.
Lâchez tout, lâchez Dada, lâchez votre femme, lâchez votre maîtresse, lâchez vos espérances et vos craintes, semez vos enfants au coin d'un bois, lâchez la proie pour l'ombre, lâchez au besoin une vie aisée, ce qu'on vous donne pour une situation d'avenir, partez sur les routes.
L'Adrienne Meunier de l'immédiate après-guerre, je parle de celle de 1914-1918, c'est une femme qui, effectivement, est comme aux écoutes de tout ce qui se passe autour d'elle. Et Je dois dire que la critique et l'histoire littéraire, trop souvent, ont réduit cet immédiat après-guerre à un grand trait, une grande zébrure qui traverse notre sensibilité, qui est celle de Dada et du surréalisme. On a négligé tout ce qu'il y avait à côté, quelquefois en marge, quelquefois en opposition, mais qui existe aussi. Et c'est là, me semble-t-il, qu'on va trouver l'originalité d'Adrienne Monnier, à la fois critique, écrivain et libraire. Ce qui me semble frappant, vous voyez, c'est de voir quelles sont quelques-unes des revues auxquelles elle a collaboré à cette époque. On est aux environs de 1923, 1924, 1925. Je trouve une revue comme Intention, qui est paru en 22 et 24, qui est dirigé par Pierre-André May. Et dans Intention, on trouve des jeunes, comme Gabriel Autizio, qui fait alors ses débuts, des amis de Jules Romain, Jules Romain lui-même, mais comme Jean de Chenevière. On trouve Claudel, on trouve Desnos, on trouve Breton, c'est-à-dire qu'on trouve, si vous voulez, une espèce d'amalgame de tout ce qui se fait dans la littérature de l'époque. Quelque chose qui correspond, si vous voulez, au premier numéro de littérature. Et si je poursuis, on ne va pas énumérer naturellement toutes ces revues, mais une autre revue, Le Mouton Blanc, qui, elle, est de 1922-1923. Cette revue, Le Mouton Blanc, est fortement inspirée par de jeunes admirateurs de Jules Romain et de ses amis. Eh bien, Adrienne Monnier collabore. On voit apparaître sa signature auprès encore de celle de Gabriel Autizio, de Chenevière et de Francis Ponge, qui fait, on l'a souvent oublié, mais qui fait ses débuts un petit peu dans le sillage de Jules Romain à cette époque. Et c'est ce qui explique, je crois, alors, l'originalité de sa revue Le Navire d'Argent. Parce qu'il faut quand même y venir. Cette revue, je vous le rappelle, a paru de juin 1925 à mai 1926, 12 numéros. Alors, juin 25, mai 26, resituons cela dans l'époque, c'est justement le moment de la grande explosion surréaliste. Le manifeste a paru à la fin de 1924, et les années 25-26, ce sont les années d'expansion. Et alors, quand on regarde les principaux collaborateurs de cette revue Le Navire d'Argent, on trouve d'abord des noms que nous avons déjà rencontrés plusieurs fois, Gabriel Autizio, d'autres encore, mais on trouve tout aussi bien le jeune Marcel Arlan, Blaise Sandrard, Duhamel, Joseph Delteil, qui est lui aussi un débutant, Giraudoux, un Espagnol, Gomez de la Serna, Franz Helens, le Belge, des écrivains anglo-saxons comme Lawrence, Mauriac, qu'on peut aussi considérer comme un jeune à ce moment-là, Jean Prévost, qui est le secrétaire de rédaction de la revue, Rilke, Jacques Rivière, ce qui nous rapproche de la Nouvelle Revue Française, dont il est le secrétaire de rédaction, Saint-Exupéry, qui fait ses débuts, Supervielle, Valérie et des rappels de Walt Whitman. Je n'ai pas cité tout le monde, naturellement, mais je crois que on peut constater, à ces simples noms, que la revue est extraordinairement ouverte. Qu'elle est extraordinairement ouverte à tout ce qu'il y a de vivant et je dirais presque de neuf, de prometteur dans la littérature de l'époque. Mauriac, par exemple. Bon, il est déjà connu, mais il n'est pas encore le romancier des années 30 qui aura un si grand succès. D'autres, comme Sandrard, ont été des poètes qui se sont fait connaître dès avant la guerre, dans la toute immédiate après-guerre, et qui commencent à évoluer vers quelque chose d'autre que la pure littérature, vers le grand reportage, vers le journalisme. Et il y a aussi, et ça je crois que c'est assez frappant, la présence de Jules Romain et de ses amis comme Georges Duhamel, et de quelques-uns de ses disciples.
Oh, Le Navire d'Argent, ça a été une grande histoire, hein. Ça a été une tentative pour faire une revue sérieuse et mensuelle, songez que nous avons eu 12 numéros consécutifs, mais après, j'étais ruinée à peu près. J'ai dû vendre mes livres à l'hôtel des ventes. Et vous savez, n'est-ce pas, que le secrétaire de rédaction était Jean Prévost. J'avais beaucoup goûté Jeunesse de l'Odyssée, qui avait paru dans la Nouvelle Revue Française en février 25, l'année où j'ai fondé le navire. C'était un écrit très appétissant, il y parlait des compagnons d'Ulysse qui dévoraient les bœufs du soleil. Enfin, j'avais trouvé ça très joli, et puis j'avais vu Prévost, qui était venu souvent à la maison, c'était un garçon très instruit, très bon grammairien, et j'avais l'impression que c'était bien ce qu'il me fallait. Je voulais faire un courrier à ce navire, qui serait d'ordre culturel. Je rêvais d'un service d'information et de critique qui pût répondre aux besoins et aux goûts individuels. Et naturellement, ça s'est passé, ça a marché à peu près, mais les gens ne vous demandent jamais ce qu'on pense qu'ils vont vous demander. Ils ne vous demandent pas tellement des choses culturelles que des petits renseignements d'ordre pratique auxquels on est des fois bien embarrassé de répondre. Maintenant, pour ce qui était de la critique générale, je l'avais résolu par une revue de la critique. Chaque mois, Prévost découpait dans les journaux, les hebdos et les revues des opinions de critiques en pied sur les livres nouveaux, et il y ajoutait des notes personnelles. Certaines ont été un peu piquantes, oui, assez étourdies et même un peu présomptueuses. Oh, il était très jeune et puis il était tellement sûr de sa grammaire et de son art de vivre. Tant et si bien qu'un jour, Schlumberger est venu pour lui faire de la morale. Et il lui dit en particulier, je m'en souviens bien, « Mais mon cher Prévost, vous êtes comme un poulain lâché dans de la porcelaine. » Moi, j'étais ravie, parce que jamais Prévost n'écoutait mes observations. Hein. Quand je voulais l'engueuler, c'était lui qui m'engueulait, finalement. Mais enfin, dans l'ensemble, c'était un très bon secrétaire de rédaction. Il savait surtout très bien se débarrasser des auteurs encombrants. L'excellent Rivière était mort depuis peu. Et Jean Prévost n'hésitait pas à dire aux auteurs que c'était la lecture de tant de manuscrits et les exigences des auteurs qui l'avaient tué. Oui, leur disait-il énergiquement. Jacques Rivière en est mort de vos histoires. Nous ne voulons tout de même pas en arriver là. Alors, évidemment, après ça, il n'y avait plus rien à dire. Il publia dans le navire quelques articles excellents que j'ai eu grand plaisir à relire des fois. Tenez, en particulier la jeune génération littéraire, où il s'est expliqué avec les surréalistes avec beaucoup de cœur et de bon sens. Et j'avais beaucoup aimé aussi les instituteurs que j'avais placés en tête de numéro. Dieu sait que j'étais de cœur avec lui. Alors nous avons eu de très bons débuts dans cette revue, en particulier André Chanson, qui n'avait encore à ce moment-là publié qu'une plaquette chez un éditeur de Nîmes. J'avais lu son roman « Roule bandit » en manuscrit. J'en avais même parlé à Daniela Lévy, qui dirigeait alors les Cahiers Verts. D'ailleurs, Daniela Lévy l'a édité un an après, à peu près. Et nous avons eu le début de Marcel Auclair, également, qui était arrivé du Chili depuis peu, qui nous semblait une incarnation de Fermina Marquez. C'est Larbeau qui devait présenter son premier livre, c'est Jean Prévost qui devait l'épouser. Nous ne doutions pas alors qu'elle serait un jour la directrice de Marie-Claire. Mais notre débutant le plus glorieux fut sans doute Saint-Exupéry. Jean Prévost l'avait rencontré chez une amie de Gide. Très frappé par le ton de ses récits, il lui avait demandé s'il n'écrivait pas. Saint-Ex lui avait remis un texte assez important, L'Aviateur, c'est une première version de Courrier Sud, et vous pensez avec quelle joie nous l'avons publié. Il y a eu un numéro aussi, entièrement consacré à Blake, et un numéro consacré aux jeunes écrivains nord-américains, qui naturellement a été organisé par Sylvia Beach. C'est dans ce numéro que parut la première traduction de Hemingway, L'Invincible, nouvelle qui fut reprise dans le volume 50 000 $. Croiriez-vous que le texte fut remarqué, mais tout de suite, par Claudel, par Paul Hazard, qu'il compara à Mérimée, par Gaston Gallimard, qui lui offrit tout de suite un contrat. Jamais texte du navire ne fit tant d'effet. À nos sommaires, nous avons eu des textes importants aussi, ou vraiment importants, de Valérie Larbeau, qui a fait celui du numéro 1, Paris de France, de Paul Claudel, qui nous avait donné sa magnifique conférence, Philosophie du livre, Jules Romain, qui nous a donné sa nouvelle préface à la vie unanime, Georges Duhamel, Jean Giraudoux, le couvent de Bella, Jean Schlumberger. Vous voyez, c'était pas mal. Hein. Et l'idée de la Gazette, cette fameuse Gazette, qui devait avoir quelques succès, ne m'est venue qu'au numéro 7. À la mort de la revue, puisque je vous l'ai dit, la revue est morte après son 12e numéro, Paulin m'avait même offert de prendre ça dans la Nouvelle Revue Française et de faire ma Gazette dans la Nouvelle Revue Française. Je n'ai pas accepté parce que j'ai dit non, vous ne me donnerez jamais la place dont j'ai besoin, vous ne le pouvez pas, étant donné tous les auteurs que vous avez chez vous. Et puis, il y a des cabrioles qu'on fait bien chez soi, mais qu'on ne ferait pas chez les autres.
Le navire d'argent n'a pas duré beaucoup plus qu'un grand nombre de revues de l'époque. Il y aurait là toute une histoire des revues, je dirais presque une sociologie des revues à faire. Il y a des époques où les revues durent 2, 3, 4 numéros, c'est l'époque du symbolisme par exemple. Oui. Il y a des époques où elles durent un peu plus longtemps. Les revues de 1920 à 1930, en général, durent de 18 mois à 2 ans. Et vous voyez que le navire d'argent donc est dans la norme puisqu'il a eu 12 numéros, en oui. s'étendant sur un peu plus d'un an.
Donc en 26, hein, c'est la fin du c'est navire
cela.
D'argent.
C'est cela, c'est la fin du navire d'argent, et je dirais presque que c'est la fin ou l'avant-fin de la belle époque des revues.
Quand même, dans les années 35, il y a encore pas mal de revues importantes, on pense par exemple à Mesure.
Ne disons pas naturellement que les revues ont disparu, mais elles ont peut-être joué un rôle un peu différent dans les relations entre les écrivains, dans le système, comme on dirait aujourd'hui, médiatique. Mmh. Et il me semble assez frappant que les années 30 à 39 voient plutôt l'apparition de revues assez luxueuses, qui ont généralement une présentation typographique beaucoup plus recherchée, des illustrations. Et Mesure est à la fois, elle aussi, révélatrice de nombreuses choses. Elle est révélatrice de cette obstination d'Adrienne Monnier à s'intéresser à la fonction de la revue et à ce rôle d'intermédiaire que la revue a entre écrivain et lecteur. Mais d'autre part, je crois qu'elle est aussi caractéristique, comment dire, d'une certaine évolution. Et c'est tout de même une revue encore ouverte sur la vie contemporaine, mais qui est beaucoup plus de reconnaissance d'écrivains de qualité que de découverte. On est 10 ans après. Ça, c'est manifeste. Et il n'empêche que dans l'histoire de nos revues et dans l'histoire de notre vie littéraire française, c'est une espèce d'ancrage.
Ah oui.
Je ne dirais pas qu'il y a un avant et un après Mesure. Mais il y a une plaque tournante qui est à la veille de la guerre, dans tout ce qui se produit, dans tout le bouillonnement qui se produit alors dans la littérature française. Eh bien, il y a une plaque tournante qui est justement cette revue.
Romain m'apporta, au moment où j'en avais besoin, une nourriture plus solide, une vue du monde plus précise et plus avancée. J'avais 22 ans. Je lus coup sur coup tout ce qui avait alors paru de Romain. Ce fut une ivresse. L'unanimisme m'a paru une idée grande, féconde, vraiment géniale. C'était la réponse la plus ferme et la plus claire, me semblait-il, qu'on eût jamais donnée à la question religieuse. Oui, Romain influença grandement une partie de mes opinions. Au moment même où je m'apprêtais à former un groupe, il me munit des viatiques les plus utiles. Il donna une armure à mon esprit trop portée au quiétisme. Michel Descodins, qu'est-ce que c'est que cet unanimisme dont nous parle Adrienne Monnier ?
Jules Romain, en 1908, publie un recueil de vers qui s'appelle « La vie unanime » et développe ce thème de l'unanimisme qui, en gros, se résume en ceci. C'est une saisie de sentiments provoqués par la vie moderne. Jules Romain nous dit que dans la cité d'aujourd'hui, qui est une cité très populeuse, qui est animée par des mouvements qui sont souvent des mouvements de violence, qui aboutissent par exemple à des grèves. Il vit dans l'avant-guerre une période de lutte sociale extrêmement forte. Eh bien que tout cela provoque des sentiments nouveaux. Et ces sentiments nouveaux, c'est le sentiment d'appartenir à une collectivité, ou le fait même, sans même le sentir, d'être de cette collectivité. Par exemple, lorsque je suis, et c'est l'expérience même que nous donne Jules Romain, lorsque je suis dans la rue, eh bien, entre moi, entre mon âme, et tous ceux qui sont autour de moi, qui ne me connaissent pas, mais qui simplement me frôlent, me rencontrent, me dépassent, il y a une espèce de chose commune, une âme commune qui se manifeste, et c'est ce qu'il appelle un unanime. C'est d'une part l'art d'avoir des antennes, mais c'est d'autre part aussi l'existence d'êtres qui nous dépassent, mais qui n'existent en même temps que le temps d'une réunion d'hommes. Par exemple, dans une représentation théâtrale, d'abord il n'y a rien qu'une salle vide. Et puis il y a des gens qui viennent, il y a les acteurs qui viennent, il y a les techniciens, les femmes de service, les spectateurs. Et tout ça crée peu à peu des unanimes différents. Et ces unanimes différents vont faire pendant la représentation un seul unanime. Mais cet unanime va mourir quand chacun entrera chez soi.
Au fond, Michel de Caudin, l'unanimisme est l'envers exact du surréalisme, puisque le surréalisme, c'était la volonté de fabriquer l'époque, de faire l'époque, d'être l'avant-garde d'une époque, alors que l'unanimisme, c'est l'art de recueillir finalement ce qui se passe dans une époque.
Oui, on pourrait le dire, et on pourrait même élargir en disant que ça ne concerne pas seulement l'unanimisme, mais que ça concerne toute une série d'aspects de ce que j'appelle, moi, la modernité. Et ce qu'on trouve aussi bien chez Sandrard à cette époque que chez Paul Morand, que chez ces gens qu'on ne sait pas souvent classer. Il est très frappant de voir que dans les manuels de littérature, on ouvre des tiroirs un peu partout pour des écrivains de cette sorte. Mais en réalité, ce qui les réunit, et également un Giraudoux, par exemple, à l'époque, ce qui les réunit, c'est cela. C'est une présence dans le monde contemporain et une volonté d'accepter ce monde comme tel. Non pas de le changer.
Et non pas de mais changer de dire comme existe. Le voulaient les surréalistes, voilà. Justement. Mmh.
Oui, nous oui. sommes là. Et c'est pas du tout une attitude révolutionnaire, mais c'est pas du tout non plus une attitude réactionnaire qui consiste à se tourner vers le passé et à dire tout était beau au XVIIe siècle ou ne rompons pas avec les classiques.
Donc c'est l'art de de vivre au présent.
Voilà, c'est l'art de vivre au présent.
C'était quand même l'idéologie d'Adrienne Monnier.
Exactement. Et c'est en cela probablement qu'elle se trouvait beaucoup d'affinité avec Jules Romain.
Qu'est-ce que parler veut dire ?
Semer des cailloux blancs que les oiseaux mangeront.
Que redoutez-vous le plus au monde ?
Certains animaux lents qui se promènent après minuit autour des arbres de lumière. Les autobus aussi.
Auriez-vous voulu être ?
Le passé, le présent, l'avenir.
Qu'appelle-t-on vertu ?
Un hamac de plaisir aux branches suprêmes des forêts.
Ce qui me frappe particulièrement chez elle, c'est la diversité de son choix. Car cette femme, elle a été capable aussi bien de comprendre, d'aimer André Gide ou Paul Valéry que des poètes comme Pierre Reverdy ou Jacques Prévert, si vous voulez, qui est aussi un poète très différent, bien sûr, de Reverdy. Mais cela vous donne une idée de la gamme, de l'étendue de son accueil. Car la culture, avant tout, c'est un accueil, ce n'est pas un refus a priori. Et si elle était capable de parti pris d'exclusion très violent, c'était en connaissance de cause. Le choix d'Adrienne Monnier équivalait pour les écrivains de son époque à une sorte de consécration. Le fait qu'on était représenté dans son cabinet de prêt ou dans sa vitrine, c'était une marque de gloire, cette gloire obscure dont parle Valéry, mais qui est la vraie gloire. Et c'est amusant de savoir que dans son arrière-boutique, elle avait un cabinet de portraits où étaient toutes les photographies des écrivains qu'elle avait choisis, souvent avec des dédicaces. Et il y avait certains auteurs de l'époque qui faisaient des pieds et des mains pour introduire leur effigie avec de brillantes dédicaces dans cette assemblée. Ils n'y réussissaient pas toujours, je n'ai pas besoin de vous le dire. Ce qu'on aime en elle, si vous voulez, c'est une connaissance qui n'est pas seulement intellectuelle, mais qui est, je dirais, sensuelle, sensible tout au moins. Il y avait un autre aspect qui vous montre ce qu'était cette sensualité, cette sorte de gourmandise qui donne tellement de charme à son approche des œuvres. C'est son aspect de gastronome. Vous savez qu'elle faisait une excellente cuisine, ce qui n'est pas un charme à négliger quand on veut capter l'attention des grands hommes. Et qui faisait, vis-à-vis des étrangers, par exemple, aussi le caractère vraiment original de cette maison de la rue de l'Odéon.
Profil perdu. Une femme de la rive gauche. Adrienne Monnier, par Christine Goémé. Avec Michel Cournot, François Chapon, Michel Fardoulis-Lagrange, Michel Descodins et la voix d'Adrienne Monnier. Texte d'Apollinaire, de Gide, de Breton, d'Aragon, lu par Jean-Claude Durand. Archive, INA. Groupe de réalisation, Pierre Mine, Jean-Mathieu Zand, Daniel Fontanarosa.
Cette émission a été diffusée la première fois le 1er décembre 1988 sur France Culture. À suivre. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.